Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Sénégal, la fécondité a enregistré une baisse sur environ 3 décennies. Le nombre moyen d'enfants par femme est désormais inférieur à 5, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. L'indice de fécondité est passé de 6,4 à 4,7 entre 1988 et 2019. La population, qui était de 13,5 millions d'habitants lors du dernier recensement en 2013, a été estimée à plus de 17 millions en 2021, dont 50,2% de femmes et 49,7% d'hommes. La moitié de la population du Sénégal est âgée de moins de 18 ans, souligne le rapport. Les statistiques indiquent par ailleurs qu'en dépit d'une hausse continue de la population urbaine, celle-ci reste minoritaire avec près de 53% des habitants du pays qui vivent en dehors des villes. Au Salvador, en Amérique latine, une jeune femme condamnée à 30 ans de prison pour une fausse couche qualifiée d'homicide aggravé a été remise en liberté à la suite de la commutation de sa peine après 13 ans d'incarcération. Le code pénal salvadorien interdit depuis 1998 l'avortement en toutes circonstances et prévoit jusqu'à 8 ans de prison. Mais les poursuites sont souvent engagées pour homicide aggravé, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 50 ans de prison. Après sa libération, Maritza a appelé les organisations de défense des droits humains à soutenir d'autres femmes qui sont encore en prison. Au Pakistan, le frère d'une starlette des réseaux sociaux, acquitté en appel de l'assassinat de sa sœur, pour lequel il avait été condamné à la perpétuité, est en liberté. Mohamed Wassim avait fièrement reconnu avoir étranglé sa jeune sœur, Kandil. Selon la nouvelle loi, les parents d'une victime de crime d'honneur ne peuvent plus pardonner à l'assassin, mais cela reste possible pour les autres meurtres. Un juge d'appel a refusé de qualifier ce crime comme tel, rejetant les aveux du tueur et l'acquittant. Selon le jugement d'appel, il a dit que ses aveux n'avaient pas plus de valeur qu'un bout de papier. Le ministre de l'Information, Fawad Chaudhry, a déclaré que le gouvernement contesterait le verdict devant la plus haute juridiction du Pakistan, ajoutant que le pays devrait avoir honte d'un tel système judiciaire. La députée Malika Bokhari a précisé qu'il y aurait un examen des options juridiques contre l'acquittement. Dans un article paru le 24 avril 2022 en Grande-Bretagne, le Mail on Sunday affirme que des députés conservateurs comparent Angela Rayner, 41 ans, à Sharon Stone, dans le film Basic Instinct, et la décrit comme une grand-mère socialiste qui a quitté l'école à 16 ans alors qu'elle était enceinte et sans qualification avant de devenir une travailleuse sociale. Madame Reiner a dénoncé du journalisme de caniveau, soulignant qu'en politique, les femmes affrontent le sexisme et la misogynie quotidiennement. Cet article a suscité des réactions indignées de tous bords politiques, y compris de son adversaire, le Premier ministre Boris Johnson, qui a jugé les commentaires sexistes contre Madame Reiner totalement intolérables.
Parole de femme.
Les parents d'un homme originaire de République démocratique du Congo ont appelé à une justice équitable aux États-Unis pour la mort de leur fils, Patrick Lioya, 26 ans, tué d'une balle dans la nuque à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier à Grand Rapide dans le Michigan le 4 avril. Sa mère Dorcas Liola a dit craindre pour la vie de ses autres enfants quand ils sortent de la maison, alors qu'elle pensait être venue dans un pays sûr. Elle a dit souhaiter que cela ne se reproduise plus jamais, que plus aucun parent ne vive une telle tragédie aux États-Unis. Écoutons Madame Lioya qui s'exprime en Swahili au micro de Marius Muhunga lors des funérailles de son fils Patrick à Grand Rapide dans le Michigan.
Ce qui est arrivé à Patrick est tellement grave et mon cœur va saigner toute la vie. Je suis tellement traumatisée que si l'un de mes enfants parmi ceux qui me restent va dehors, je crains qu'on vienne me dire que lui aussi a été tué.
Dans l'une de vos déclarations, vous avez dit, madame, que vous avez fui la guerre au Congo pour venir ici parce qu'ici vous pensiez que vous allez avoir la paix. Vous continuez toujours à le penser aujourd'hui ?
Nous répétons à tous ceux qui veulent nous entendre que nous avons quitté l'Est du Congo à cause de la guerre, des violences et des tueries vécues tous les jours. Arrivés ici, nous avions l'espoir de trouver la paix tant recherchée. Mais voilà que notre fils trouve la mort dans un pays où il n'y a pas de guerre, un pays censé nous protéger. Mon cœur est vraiment brisé. Je suis blessée au plus profond de mon âme. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce monde qui pourra me faire oublier cette douleur. Ce qui m'est arrivé ne me donne plus envie de rester dans le pays. J'ai juste envie de retourner chez moi malgré la guerre. Il n'y a rien, alors rien qui peut remplacer mon fils. Patrick me manquera toute la vie.
C'était Dorcas Lioya, originaire de République démocratique du Congo, qui parlait de son fils Patrick, tué par un policier lors d'un contrôle routier aux États-Unis. Tu avais des rêves, tu avais des ambitions, dit cette chanson réalisée par Jonathan pour Patrick et chantée avec Armani lors de ses funérailles. Comme dans la plupart des pays en Afrique, les femmes au Kenya ne possèdent qu'une infime fraction des biens immobiliers et moins de 14% des courtiers immobiliers du pays sont des femmes. Un reportage de Juma Majanga à Nairobi sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le secteur de l'immobilier. Le récit est de Rosine Munezero.
Le marché immobilier kényan est en plein essor depuis une dizaine d'années, avec de plus en plus de projets commerciaux et résidentiels dans les centres urbains. Mais malgré ce boom, les femmes doivent encore relever de nombreux défis pour devenir propriétaires et constructrices.
J'ai assisté à des réunions de développement international où il y a 2 semaines à peine, des donateurs et des bailleurs de fonds internationaux parlaient de logements abordables et où tous les participants étaient des hommes. Ceux qui discutent de la destination de 8 milliards de dollars sont tous des hommes. C'est inacceptable.
Malgré les défis, de plus en plus de femmes s'aventurent dans le développement immobilier et parviennent à réussir. Lia Wambui a quitté son entreprise de vente de boissons pour devenir promoteur immobilier. Aujourd'hui, elle a construit plus de 200 maisons dans la région métropolitaine de Nairobi, bien qu'elle et d'autres femmes soient confrontées à de nombreux défis dans ce secteur dominé par les hommes.
Ainsi, vous travaillez avec un entrepreneur qui estime qu'il ne doit pas s'attendre à entendre des choses de la part d'une femme. Ou bien il y a une façon particulière de faire les choses et c'est comme ça qu'on fait les choses. Il pense que vous ne savez probablement pas parce que vous êtes une femme.
Ayant construit l'une des principales entreprises de fabrication de matériaux de construction au Kenya au cours des 2 dernières décennies, l'architecte Winnie Ngumi comprend très bien les obstacles auxquels les femmes sont confrontées.
Même aujourd'hui, lorsque je présente l'entreprise, suppose que nous cherchons une facilité financière, que nous essayons d'obtenir un prêt, je suis confrontée à des préjugés. C'est presque comme si je devais avoir un homme avec moi dans la même pièce lorsque je négocie des lignes de crédit pour l'entreprise.
Une organisation de réseautage appelée Women in Real Estate s'efforce d'aider.
Nous avons un programme de mentorat où nous prenons des professionnels pour les accompagner tout au long de ce parcours et pour les rassurer, pour être là et répondre à toutes les questions qu'elles pourraient avoir, même pour aborder les problèmes de harcèlement sexuel qu'elles rencontrent et pour les aider à être confiantes qu'elles peuvent parler de ces problèmes et que cet espace est aussi le leur.
Les experts du secteur disent qu'il faudra du temps pour se défaire des croyances culturelles et traditionnelles profondément ancrées au Kenya et dans toute l'Afrique, qui font qu'il est plus difficile pour les femmes de s'épanouir dans de nombreux secteurs. Mais les défenseurs de la cause des femmes comme Robbie Emerson, Lia Wambui et Winnie Ngumi montrent que le changement est en marche.
Si jeunesse pouvait.
En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré cette année 5833 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 233 au primaire. Le nombre de ces cas de grossesse inquiète le gouvernement qui cherche à lutter efficacement contre le phénomène. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowis.
Les grossesses en milieu scolaire, malgré toute la sensibilisation faite sur le sujet, le nombre est toujours en hausse. Les chiffres eux-mêmes font peur. Mamadou Fofana est le directeur de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale.
Nous avons enregistré cette année 233 cas de grossesse au primaire et 5600 dans le secondaire. Et les régions les plus impactées par cette de grossesse. Pour le primaire, c'est le Bekè qui vient en tête, ensuite sur le Gontougo. S'agissant du général, nous avons d'abord Abidjan et le Gontougo et les tranches d'âge au primaire, moins de 12 ans et 12 ans et plus dans le secondaire.
Une des victimes dont nous protégeons l'identité répond aux initiales du GM, partage cette amère aventure d'élèves ayant contracté une grossesse à l'école.
J'étais en classe de 3e et voilà, j'ai contracté cette grossesse. Et celui qui m'a engrossé, il était étudiant, il m'a laissé tomber en fait. Et quand j'ai accouché, je vous assure que je n'avais pas une assistance médicale. Et l'enfant et moi, nous étions malades. Et l'enfant est décédé à 1 mois de semaine.
Subir les effets d'une grossesse précoce, puis perdre son enfant est quelque chose de terrible pour GM, suite de son témoignage.
Il y a plusieurs conséquences. Sur le plan même scolaire, ça n'allait pas. Je t'ai rejeté et ne plus avoir la force de reprendre le chemin de l'école. Cet aspect de ma vie m'a marqué psychologiquement. Ça m'a mise dans une situation dépressive.
Face à cette situation dramatique pour les jeunes filles et jeunes futures mères, les Ivoiriens réagissent. Mel Emmanuel Amani est interprète traducteur.
C'est un phénomène qui met à mal l'éducation ivoirienne.
Okowe Michael, étudiant en philosophie.
Les parents trouvent que le sexe est un sujet tabou.
Dame Karen Siri.
Il y a beaucoup de raisons. Les responsabilités des parents. Également, il y a un laisser-aller même au niveau aussi de l'enfant.
Les grandes perdantes sont les filles et un enfant se fait à deux. Qu'en dire des pères? Mamadou Fofana situe les responsabilités.
Les auteurs, c'est généralement élèves et étudiants, le personnel d'éducation et les petits métiers.
Pour Karine Siri, il faut plus de communication entre les parents et les enfants.
Je parle de sexualité avec mes enfants.
Brahima Traoré est le directeur régional du ministère de l'Éducation nationale de Korogou dans le nord du pays.
De l'encadrement. Les jeunes filles sont adolescentes, c'est une période assez difficile.
Le programme des Nations Unies pour la population participe à la campagne dite Zéro Grossesse à l'école. Docteur Conan Yaou, chargé de programme Jeunes et Adolescents à l'UNFP Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, c'est l'éducation en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le deuxième élément, c'est les campagnes multimédia.
La plupart des jeunes filles enceintes sont obligées de quitter l'école et commencer une nouvelle vie plus difficile. Car sans argent, il faut pouvoir nourrir et élever son enfant. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Comme nous venons de l'entendre, dans le milieu scolaire en Côte d'Ivoire, les réfugiés congolais et burundais hébergés dans le camp de Mahama dans l'est du Rwanda s'inquiète de l'augmentation des grossesses de mineurs. Il souhaite que les auteurs de ces grossesses soient punis de façon exemplaire. Un reportage de notre correspondant Jean Damasène Manichiwe qui s'est rendu sur place.
Clarisse Ouera, c'est un pseudonyme donné à cette adolescente âgée seulement de 16 ans du camp des réfugiés de Mahama à l'est du Rwanda. Tombée enceinte, Clarisse a été obligée de quitter l'école pour pouvoir prendre soin de son bébé. Quelques mois après, il a pu reprendre le chemin de l'école. Il a une facilité de passer à la maison pour allaiter son fils aux heures indiquées.
Quand je vais à l'école, je lui laisse du lait. Âgé de plus d'une année, il prend du lait. À midi, on me donne l'autorisation de venir pour l'allaiter. Avant, il m'était très difficile d'étudier. Mais je me suis calmée et je n'ai aucun problème.
Malgré cette situation, Clarisse est loin de se décourager. Elle est déterminée à poursuivre ses études jusqu'au niveau universitaire pour s'assurer un avenir meilleur.
Je veux étudier et terminer mes études et si possible aller jusqu'à l'université pour mieux préparer mon avenir. Je suis en première année de secondaire.
Ce problème n'est pas le propre de Clarisse, mais plutôt partagé par de nombreuses adolescentes.
Elles peuvent être violées, mais aussi certains hommes se servent des objets matériels pour séduire ces adolescents.
Pour le moment, le nombre total des jeunes adolescentes qui sont tombées enceintes n'est pas connu, mais le seul camp de Mahama à l'est du Rwanda compte environ 150 jeunes filles qui ont regagné l'école après qu'elle les ait mises au monde. La ministre rwandaise ayant les réfugiés dans ses attributions, Marie-Solange Kayisire, indique que le Rwanda est résolu à assister ces adolescentes au quotidien.
Nous avons mis en place différentes politiques de formation et de sensibilisation pour aider les jeunes filles à connaître leurs droits et leurs responsabilités. Celle qui par malheur tombe enceinte n'est pas délaissée. Nous l'accompagnons dans la prise en charge de l'enfant pour qu'elle retourne à l'école pour son bien dans l'avenir.
Le camp de Mahama à l'est du Rwanda compte plus de 55 000 réfugiés congolais et burundais, alors que le pays dénombre au total environ 130 000 réfugiés. Les femmes et les enfants constituent 75% de la population totale de ces réfugiés. Jean Damasène Manichimwe, VOA Afrique, à Kigali.
Entre parenthèses. «
Selon une étude publiée par Science Advances, près de la moitié des Américains opposés à l'avortement accepteraient toutefois de soutenir une proche voulant y recourir. Ces personnes se trouvent face à un conflit moral, tiraillées entre leur opposition à l'avortement et leur penchant à aider quelqu'un qui leur est cher, explique la sociologue Sarah Cowan, qui a dirigé l'étude. 76% des personnes opposées à l'IVG offriraient un soutien émotionnel à une proche dans cette éventualité. 45% seraient prêtes à l'aider sur le plan logistique et 30% à payer des coûts annexes. 6% seraient même prêts à payer l'opération. En 1973, la Cour suprême des États-Unis a statué que la Constitution protège le droit à l'avortement, mais les lois peuvent être très différentes d'un État à l'autre.
Le monde féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi. À travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Gabon, le gouvernement dit vouloir en finir avec les violences à l'école, principalement dans les lycées et les collèges. Ainsi, parler pour se libérer devient la règle pour rompre avec le cercle vicieux de ces violences. Mais l'exercice n'est pas toujours simple pour des jeunes souvent guidés par des comportements de groupe. Le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale ont lancé une campagne de sensibilisation auprès de la communauté éducative. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Fredlin Koumba a 14 ans. Pour ce jeune élève de la classe de 3e, les premières années de lycée ont été un véritable cauchemar. Pour avoir voulu séparer une bagarre à la sortie des cours, il a été violemment pris à partie.
On m'a poignardé avec un stylo en fer plusieurs fois au niveau des épaules. Je me suis débattu, mais après, en allant me plaindre à l'administration, l'administration a pu mettre main sur l'élève en question et il avait été sévèrement sanctionné et les parents m'ont beaucoup réprimandé par rapport à ça, que lorsque tu es au lycée, c'est pas tout le monde qu'on peut sauver.
Une mise en garde des parents, que l'adolescent n'est pas prêt d'oublier alors que le phénomène s'amplifie d'année en année. Succulent, Maluango Maluango, proviseur du lycée Paul Ndjenjengonjou de Libreville.
Le type de violence que nous enregistrons ici, c'est le braquage, les bagarres avec armes blanches. Et tous ceux qui sont arrêtés, tous les indélicats qui sont arrêtés sont automatiquement traduits en conseil de discipline conformément à nos textes, à notre règlement intérieur.
Coup de poignard par ici, bagarre par là, échanges verbaux traumatisants, il s'agirait d'une vague de violence dont les causes parfois n'ont rien à voir avec l'école. Ntam Messa est psychologue clinicienne.
Nous sommes dans une société de reproduction sociale. Ce que l'enfant a vécu à la maison, il s'essaye avec dans le milieu scolaire. Mais en réalité, l'école en lui-même n'est pas un danger parce que ce sont les individus qui viennent vers l'école et chaque individu apporte ce qu'il aura reçu dans son enfance. Et comme nous, les acteurs, c'est beaucoup plus les adolescents. Et donc, c'est un terrain de prédilection pour s'émouvoir.
Selon les résultats d'une récente enquête nationale, 59% des acteurs du système éducatif, tous groupes confondus, ont été victimes de violences. Le gouvernement a donc décidé de ne plus croiser les bras. Erline Antonella Ndembe, ministre de la Justice.
Une sensibilisation, une formation même ne suffit pas. Il faut y mettre le cœur, il faut y mettre la volonté. Il faut être convaincu de la chose et je pense que tous ici, vous êtes conscients de la gravité des choses.
La campagne en cours a pour but d'intégrer dans la conscience de la communauté éducative la force de la loi. Ismaël Obiangze, Libreville pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!